Oh, mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les nouvelles du monde pour ce jeudi 16 avril. Aujourd'hui, eh bien, on va s'intéresser au début de l'examen de cette fameuse loi Yadan qui aura lieu malgré la pétition de plus de 700 000 signataires qui a été tout simplement jetée à la poubelle par l'Assemblée nationale. On parlera du licenciement du PDG de Grasset, une maison d'édition qui est détenue maintenant par le groupe Bolloré, et du coup plus d'une centaine d'auteurs qui en ont claqué la porte hier. Et puis on va parler de quelques continuation, on va dire, dans le détricotage de la réglementation environnementale, que ça soit envers la préservation du loup, que ça soit les ZFE ou les PFAS, voilà. Et puis aussi, on parlera d'une amende infligée, très lourde amende, contre ce qu'on peut appeler le cartel du bio, des accords pour que les prix du bio dans la grande distribution ne baissent pas, en tout cas, voilà. Et on terminera, comme mardi dernier, avec la chronique de Yannou. Voilà, vous savez tout, et on en va faire ça donc avec le logiciel VLC qui va nous aider à remplacer notre autre logiciel qui n'a pas voulu démarrer. Allez, ça marche quand même. Tout d'abord, avant tout ça, eh bien, des petites infos de cette flottille pour Gaza, une nouvelle flottille qui vient de prendre la mer, cette fois-ci depuis le port de Barcelone. Je vous ai parlé déjà des préparatifs qui avaient lieu à Marseille. Là, les bateaux de Marseille ont rejoint donc les Espagnols et d'autres nationalités à Barcelone. Et c'est donc la globale Sumud Flotilla, pardon, qui vient de quitter le port de Barcelone hier, donc, avec des dizaines de bateaux, principalement à voile, avec de l'aide humanitaire à bord. Le but, eh bien, essayer de se rendre dans la bande de Gaza. C'est une nouvelle initiative civile qui vise à dénoncer la situation dans cette enclave palestinienne pour attirer de nouveau l'attention de la communauté internationale sur la crise qui y est en cours. Cette flottille globale Sumud prévoit donc de réunir plus de 70 bateaux, environ 1000 participants de différents pays, dans ce que ces organisateurs considèrent comme la plus grande mobilisation civile de ce type en réponse aux actions d'Israël dans le territoire palestinien. Une quarantaine d'embarcations sont parties donc hier de la capitale catalane en mer, tandis que d'autres vont les rejoindre progressivement depuis d'autres ports méditerranéens au fur et à mesure que la flottille se déplacera vers l'est pour atteindre donc à l'extrémité est de la Méditerranée, la bande de Gaza. Le départ était prévu initialement le 12 avril, il a dû être reporté en raison des conditions météo. L'objectif de cette expédition est double, hein. À la fois, eh bien, du concret, acheminer des produits de première nécessité, tels que de la nourriture et du matériel médical, même si bien évidemment ça ne suffira jamais, mais vu que le blocus continue partiellement sur place, ça sera toujours ça de prix, mais surtout d'autre part, exercer une pression politique et médiatique pour dénoncer les restrictions imposées à la population gazaoui. Cette mission vise également à ramener l'attention internationale sur Gaza, hein, à un moment où l'attention mondiale s'est déplacée vers d'autres conflits du Moyen-Orient, tels que la guerre en Iran. Parmi les organisations qui soutiennent la flottille, à noter que Greenpeace s'est joint à la mobilisation, et aussi l'ONG de sauvetage maritime Open Arms, donc avec des bateaux plus conséquents. Donc ils ont mis à disposition ces navires plus grands, et sont eux aussi habitués d'ailleurs aux opérations en pleine mer pour accompagner et sécuriser autant que possible le reste de cette expédition. Et j'en profite pour vous signaler que sur les pages du journal Alter Midi, qui a un site internet altermidi.org et une émission de radio sur Escapade un lundi par mois, eh bien vous pouvez avoir des articles assez poussés, très intéressants, d'une journaliste qui va donc sur les différents lieux de préparatifs de cette flottille pour relater au fur et à mesure les préparatifs en interviewant notamment des gens qui se sont investis dans ces initiatives, histoire de voir un petit peu aussi les profils de ces militants qui s'engagent dans cette flottille. Bah, on va rester dans cette thématique et parler cette fois-ci de la loi Yadan, avec nos titres, pas mal d'articles de ce matin, des oppositions à cette loi qui vont bien au-delà du camp de la gauche. Cette loi Yadan est examinée à partir de ce matin, ils ont commencé l'examen à l'Assemblée nationale. C'est une proposition de loi, pour l'instant une PPL comme on dit, portée par le groupe Renaissance et donc Madame Yadan. Elle fait tiquer jusqu'à ses alliés, donc des gens qui étaient initialement plutôt pour. On va d'abord parler de cette pétition, hein. J'en ai déjà parlé mardi, elle avait dépassé les 700 000 signatures, hein, ce qui était une première je crois dans l'histoire des pétitions sur l'Assemblée nationale. Eh bien, cette pétition ne sera pas examinée, elle, à l'Assemblée nationale, puisque les députés de la Commission des lois ont décidé hier de classer la pétition mise en ligne. Ce qui signifie tout simplement qu'ils ont fermé l'accès, il n'est plus possible de signer ce texte. J'imagine que tout est parti à la poubelle. Bref, malgré ça, et puis ce qui a été déploré par de nombreux députés opposés à la loi, donc les débats commencent aujourd'hui. Des débats qui se promettent houleux, car en plus de l'opposition politique classique droite-gauche, d'autres voix se sont fait entendre contre la proposition, y compris même au sein de l'ancien bloc central. Alors, à la base, c'est pas moins de 128 élus qui ont signé cette proposition de loi, déposée par Caroline Yadan, députée apparentée Renaissance, une loi conçue pour lutter contre les nouvelles formes d'antisémitisme. La majorité des signataires vient des bancs du parti présidentiel, mais aussi du groupe Horizon et de la droite LR. A noter, eh bien, les socialistes François Hollande et Jérôme Guedj l'avaient aussi co-signé au moment de son dépôt, donc au contraire de la position de leur parti. Cette proposition de loi a aussi eu le soutien clair de deux membres du gouvernement, la porte-parole Maud Brejon et Aurore Berger. Mais donc le 13 avril, le chef du groupe Marc Fesneau n'a pas retenu ses coups contre le texte, cité en exemple du travail de piètre qualité des députés. Voici ce qu'il a dit dans les journaux, dans les colonnes de l'Opinion. La proposition de loi Yadan en est à déjà plusieurs réécritures. Après un passage tardif par le Conseil d'État, rien ne va. C'est donc les mots de Marc Fesneau, hein, le chef de file du groupe Bérouiste, qui est pourtant normalement pas très habitué de ce type de sortie médiatique. Le lendemain, en des conférences de presse, d'autres voix discordantes se sont fait entendre, notamment la députée Perrine Goulet, qui représente les députés Modem, donc centristes. Et elle explique qu'il s'abstiendrait de voter pour cette loi, voire même voterait contre, et ce, selon les débats ou amendements qui pourraient être votés. En cause, là aussi, un texte jugé mal ficelé. Voilà donc des réserves de la part du parti de François Bayrou qui rendent finalement assez incertaine l'adoption de cette proposition de loi. D'ailleurs, Bayrou et son groupe ne sont pas les seuls à exprimer des critiques sur le fond, hein, puisqu'après l'adoption en commission des lois en janvier, plusieurs instances, mais aussi des personnalités apolitiques ou des professionnels du droit, ont pointé des failles dans ce projet de loi susceptible de nuire autant à la lutte contre l'antisémitisme qu'aux libertés individuelles. On va donc regarder un petit peu en détail ce qui est reproché à cette loi. Bah, tout d'abord, les argumentaires de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, la CNCDH. Elle a appelé les députés à rejeter le texte, inquiète de voir repris comme postulat de départ la définition de l'antisémitisme qui est portée par l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, l'IHRA. Cette définition, en effet, est controversée, puisque ses détracteurs estiment qu'elle tend au-delà d'un antisémitisme toujours condamnable à interdire toute critique d'Israël. Le même problème d'ailleurs est pointé aussi par le collectif Juif et Juif Révolutionnaire et par des universitaires dans deux tribunes distinctes qui ont été parues dans Le Monde. L'article 1er de cette loi, il tend à élargir les délits de provocation et d'apologie du terrorisme en y incluant cette notion de provocation implicite qui est vraiment problématique. Hein, on arrive dans le domaine du psychologique, du sous-entendu. Ça a d'ailleurs fait bondir l'ancien juge antiterroriste Marc Trévidic. Qu'est-ce que cela veut dire, s'est-il énervé ? À côté du terrorisme, qui est déjà la notion la plus floue du droit pénal français, vous allez ajouter celle encore plus floue de provocation implicite. C'est quand même rigolo, hein ? C'est l'ancien juge antiterroriste qui fait remarquer déjà que la notion de terrorisme est une notion très très floue en droit pénal, et il a vraiment pas tort là-dessus. Donc maintenant, on va rajouter terrorisme implicite, voilà. Ça, c'est dans les colonnes de l'Humanité, d'ailleurs, qu'il s'en est agacé. Il a donc avec ça expliqué l'impossibilité pour un juge de pouvoir rentrer dans le cerveau des gens. Cet ancien numéro 1 donc, de l'antiterrorisme français fait la liste des questions sans réponse auxquelles seraient confrontés ses confrères qui devraient faire face à cette loi. Par exemple, comment provoque-t-on implicitement au terrorisme ? Quels seraient les éléments constitutifs de cette infraction pénale ? Comment distinguer l'élément intentionnel ? Ce sont en effet tous ces mots qui font partie de cette proposition de loi qui sont censés être normalement après utilisés par les juges dans des procès. On peut parler aussi de l'article 2 qui crée une infraction contre l'appel à la destruction d'un État reconnu par la République française. Donc l'appel à la négation donc, de l'État d'Israël. À l'Assemblée, ses détracteurs soulignent le côté redondant avec des législations déjà en vigueur. Hein. A priori, cette loi n'a pas inventé l'eau chaude dans ce qui concerne la négation d'un État en vigueur et notamment de celui d'Israël. Mais des peurs existent aussi sur la disparition donc, de tout débat ou par exemple des conférences ou même des recherches qui pourraient porter sur l'histoire de la création d'Israël en regard de la Palestine. Ce sont 5 experts de l'ONU qui pointent ça dans un communiqué. Les restrictions excessives que la proposition de loi imposerait à la liberté d'expression et d'opinion risqueraient également de dissuader ou d'inhiber le débat public légitime ainsi que la défense des droits humains. Donc voilà, tous ces auteurs de critiques sont unanimes et reconnaissent la poussée indéniable des actes antisémites, en France depuis le 7 octobre. Ils appellent évidemment à lutter contre, mais tous mettent en garde sur une proposition de loi si mal formulée, que ça soit involontairement ou au contraire bien sciemment selon les avis, que pour eux en tout cas cette loi devient dangereuse et contre-productive. On part maintenant dans le monde de l'édition, là aussi les questions de censure à bas bruit qui s'installent, et c'est principalement contre la mainmise de Vincent Bolloré, qui est maintenant le propriétaire aussi de Grasset, que 115 auteurs claquent la porte donc de la maison d'édition Grasset. C'était hier soir, et pour dénoncer notamment le licenciement de son PDG, qui s'appelle Olivier Nora. Nous sommes des auteurs Grasset, nous avons publié chez Grasset, ou nous avons un livre qui va sortir chez Grasset, mais nous ne signerons pas notre prochain livre chez Grasset, et nous sommes 115. Voici comment cette lettre ouverte, une lettre ouverte signée notamment par des poids lourds de la littérature, hein, qu'ils soient romanciers ou essayistes, on peut citer Virginie Despentes, Sorge Salandon, voilà dans les articles, il est question aussi de Bernard-Henri Lévy, ou de Frédéric Becbédé, qu'on mettra dans une autre catégorie. Je vais vous parler plutôt des mots de David Dufresne, qui lui aussi a été édité chez Grasset, et qui a déchiré hier à la télé son contrat en direct. C'était sur France 5. David Dufresne, vous savez, il a beaucoup travaillé sur la police et les violences policières. Il avait déjà exprimé son dégoût suite au renvoi soudain d'Olivier Noura, PDG depuis 26 ans de cette maison d'édition. Il avait, sur le réseau Blue Sky, écrit cela. Bolloré piétine l'édition, ce sera sans moi. Grande tristesse de quitter Grasset, maison que le milliardaire a rachetée et dont il prétend tout démolir. Donc ça, c'était quelques heures après l'annonce donc, du départ de l'éditeur, qui a été décidé par Vincent Bolloré, propriétaire du groupe Hachette. Cette décision, inédite par son ampleur, a été prise dans l'urgence hein, suite à l'annonce donc mardi du départ d'Olivier Nora. Il était donc à la tête de cette maison d'édition depuis 26 ans. Et elle appartient, je vous le disais, au groupe Hachette, contrôlé par Bolloré depuis 2023. Les raisons donc, de ce licenciement n'ont pas été officiellement précisées, mais selon ce collectif d'auteurs et d'autrices, il s'agit d'un licenciement qui marque une atteinte inacceptable à l'indépendance éditoriale et à la liberté de création. Ce que fait Bolloré, continue cette lettre ouverte, c'est mettre en place des maisons d'édition sans éditeur. C'est ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire du commerce et de l'idéologie, pas du tout de la littérature, pas du tout des essais. Et toujours dans cette lettre commune signée par les 115 auteurs et autrices, « Nous ne voulons pas que nos idées, notre travail, soient sa propriété. » Donc il parle de Bolloré. Les auteurs insistent aussi sur leur attachement à Olivier Nora, présenté comme le rempart et le ciment d'une maison où pouvaient coexister des voix très différentes, avec Jean-Christophe Thierry, qui est donc l'homme de confiance de Bolloré, qui a été mis à la place à la tête de Grasset. Autant dire que ce rempart vient de s'effondrer. Allez, on va parler maintenant de backlash, de green backlash, comme on dit, le retour de bâton écolo en français, à savoir le détricotage de pas mal de législations qui existaient ou qui étaient en cours, en tout cas, de mise en place au niveau français et au niveau européen. Tout d'abord, c'est les loups, et c'est l'Union européenne qui a déclassé la protection du loup, hein, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est une mesure anti-scientifique, en tout cas c'est ainsi que la nomment plus de 40 ONG européennes, et qui qualifie donc la volonté de l'Union européenne de déclasser la protection de ce grand canidé. Le communiqué a été publié hier, le 15 avril. Ces ONG réclament donc un moratoire total sur les abattages et aussi davantage de transparence sur les décisions européennes. Elles estiment celles-ci influencées par des intérêts particuliers. On rappelle que le loup est protégé en Europe depuis la Convention de Berne de 1982. Cette protection a ensuite été reprise par la directive européenne Habitat 10 ans plus tard, en 1992. Et 10 ans plus tard, donc à partir de 20 ans plus tard, pardon, à partir de 2022, les pressions se sont multipliées pour une révision de ce statut. Ça peut venir d'organisations agricoles, évidemment des fédérations de chasse et de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, elle-même, dont le poney a été prédaté en septembre 2022. En juin 2025, le Conseil de l'UE a adopté donc le déclassement du statut de canidé de strictement protégé à protégé, ce qui ouvre la voie à plus de flexibilité dans les tirs d'armes à feu. Or, même si les populations de loups ont augmenté en nombre ces dernières années, la science, rappelle ces ONG, affirme que les loups en Europe n'ont pas atteint un état de conservation favorable. En France, où l'opposition aux prédateurs est particulièrement agressive, le nombre d'individus stagne environ à 1080 loups depuis l'hiver 2021-22, notamment en raison du nombre élevé d'abattages. 200 individus sont tués par an. Avec le nouveau taux d'abattage des loups, qui est passé de 19% à 21-23% de la population prévue pour 2026, le nombre de loups a donc finalement de fortes chances de baisser, et ce environ avec des statistiques entre 61 et 66%. On va parler maintenant encore de simplification de la vie économique, et en général c'est pas bon signe pour l'environnement. Ce projet de loi a été adopté par l'Assemblée nationale, donc là on vient en France, c'était ce mardi. Encore une loi de simplification qui est dénoncée par la gauche comme étant un fourre-tout trumpiste, néfaste pour l'environnement et qui vient, ben là par exemple, d'entériner la suppression des ZFE, les zones à faible émission. Cette volonté de faire disparaître les zones à faible émission était portée par les Républicains et le Rassemblement National. Rassemblement National qui a d'ailleurs célébré cette immense victoire, disent-ils, contre l'écologie punitive. Créé en 2018, ce projet de ZFE visait à améliorer la qualité de l'air en limitant la circulation des véhicules les plus polluants dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants. Mais ce chantier, vous le savez sûrement, a été pas bien parti. Il était déjà à moitié enterré avec l'annonce de sa suppression à venir dès 2025. Il n'a donc même pas été mis en place dans pas mal d'agglomérations. Et au fil d'interminables débats autour de cette loi de simplification économique, qu'elle a été présentée sous le gouvernement de Gabriel Attal, c'était en avril 2024. Ce vote est donc aussi un échec finalement pour le gouvernement de Sébastien Lecornu, qui lui défendait un amendement de compromis, à savoir laisser aux collectivités locales le libre choix de maintenir ou pas ces fameuses ZFE. C'était un des marqueurs sur l'environnement du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, bien que les vertus écologiques de celles-ci soient elles-mêmes d'ailleurs très contestées. En tout cas, on ne pourra pas en débattre, puisqu'il n'y aura pas d'effet visiblement mesurable sur le long terme. Le groupe socialiste, les écologistes et le Modem, eux, ont annoncé déposer un recours devant le Conseil constitutionnel pour contester la suppression de ces ZFE. Elles pourraient être censurées donc par le Conseil constitutionnel si les juges qui y siègent estiment par ailleurs qu'il s'agit d'un cavalier législatif. C'est-à-dire qu'il faudrait arriver à prouver que la suppression de ces ZFE est une disposition sans rapport avec la fameuse simplification de la vie économique, et s'ils n'ont pas juste profité de cette loi pour faire passer quelque chose qui les arrangeait à côté. Et une autre. Excusez-moi, c'est le logiciel qui fait ce qu'il veut. Une autre victoire pour l'industrie, c'est la taxe sur les PFAS qui sera repoussée de 6 mois. Une discrète victoire pour l'industrie chimique, mais quand même, cette redevance qui venait d'être mise en place sur les polluants éternels, elle a encore été repoussée par Matignon jusqu'à la rentrée 2026. C'est la cellule d'investigation de France Info qui vient de le révéler dans son enquête publiée ce 13 avril. Donc les industriels qui rejettent des substances per- et polyfluoroalkylées. C'est le vrai nom des PFAS dans l'eau. PFAS, ça s'écrit PFAS, en fait, si jamais c'est pas clair. Donc, ces fameux polluants éternels. Les industriels qui rejettent ça dans l'eau, normalement, sont soumis à une redevance. Ils doivent être soumis à cette taxe. En tout cas, c'est ce qui est prévu par la loi du 27 février 2025. Donc, ça remonte déjà à plus d'un an. Le montant de cette taxe fixée par la loi, c'était 100 € pour 100 grammes rejetés dans l'eau. Et donc, plus d'un an après l'entrée en application de ce texte, on attend toujours le décret d'application pour la mise en œuvre effective de la redevance. Le Premier ministre a repoussé la mise en place de cette taxe au 1er septembre 2026, et ce, donc, malgré l'opposition des représentants du ministère de la Transition écologique, qui plaidait en février 2026 pour une entrée en vigueur au plus tard le 1er avril. Les journalistes ont pu avoir accès à une note dans laquelle Bercy reconnaît qu'une entrée en vigueur cette année demeure problématique pour l'industrie, industrie qui œuvre actuellement à la réduction des rejets, mais dont les investissements pour les réduire ne sont pas tous finalisés. Ce report donc réduit d'au moins 15 millions d'euros les recettes fiscales attendues normalement. Ça représente plus de 200 entreprises concernées par cette redevance PFAS. L'ONG Génération Future exige des explications et des mesures concrètes dans un courrier adressé à Sébastien Lecornu. L'ONG dénonce ce nouveau report par Matignon, qui est pour elle inacceptable. Celui-ci offre un cadeau fiscal de plusieurs millions d'euros aux industriels responsables de la contamination éternelle de nos rivières et de nos nappes phréatiques. Dernière info, on va parler cette fois-ci de l'agriculture biologique, en tout cas des produits bio et du cartel du bio, c'est ce que titre le journal Libération. La cellule antitrust française vient en effet de sanctionner à hauteur de 12,7 millions d'euros, donc c'est la hauteur de l'amende, Carrefour, Intermarché et le syndicat professionnel Synadis Bio pour s'être entendus entre eux sur la répartition des marques des produits bio. C'est donc une atteinte à la concurrence. Aucun rayon donc, de supermarché visiblement n'est épargné des magouilles de certains industriels et acteurs de la grande distribution. Après les yaourts, la lessive et les produits électroniques, c'est donc ce qu'on appelle le cartel du bio qui vient d'être épinglé par l'autorité de la concurrence. Celle-ci vient de condamner, donc je vous le disais, les filiales bio de chez Carrefour et d'Intermarché et aussi le syndicat de la filière Synadis Bio. Ils doivent payer une amende de 12,7 millions d'euros. Ce jeudi, c'est tombé aujourd'hui. L'autorité de la concurrence leur reproche d'avoir pris part à une entente unique, complexe et continue, ayant pour objet de répartir les marques des fournisseurs à partir de 2016, et ce, durant plus de 7 ans. Donc voilà, ils ont réparti les marques des fournisseurs des différents produits alimentaires. J'ai pas bien compris comment est-ce que ça leur permettait de pas faire baisser les prix, mais visiblement, c'était en tout cas le but de la manœuvre, hein. On parle donc quand même du numéro 2 de la grande distribution en France, hein, le groupe Carrefour, et sa filiale, le site de commerce en ligne bio Greenwiz, et donc le numéro 3, le groupement mousquetaire Intermarché, qui a aussi d'ailleurs, qui est propriétaire des comptoirs de la bio et de ITM Entreprises. Cette alliance s'est faite en concertation avec le Synadis Bio, qui est lui un syndicat professionnel des distributeurs spécialisés du circuit bio. Lui seul, déjà de son côté, il doit verser 10 millions d'euros. L'objectif donc de leur stratégie, c'était d'empêcher la commercialisation des mêmes marques de produits dans les grandes surfaces spécialisées, que ce soit magasins bio et sites de vente en ligne, et aussi des grandes surfaces généralistes. Le but, c'était de permettre d'éviter aux consommateurs de pouvoir comparer les prix en rayon entre les deux canaux de distribution. C'est Thibaut Verger qui l'explique, hein, c'est le vice-président de l'antitrust français. Autrement dit, donc, ces marques ont volontairement réparti les marques des fournisseurs entre les deux canaux de distribution pour ne pas provoquer une baisse généralisée des prix qui sont souvent plus élevés dans les magasins spécialisés que dans les rayons bio des grandes surfaces. Le montant de l'amende est sans commune mesure avec tout ce qu'a pu faire par le passé l'autorité de la concurrence. En 2011, le cartel des lessives, ça c'est comme ça qu'on appelle le groupement Unilever, Procter & Gamble, Henkel et Colgate Palmolive, donc les grands noms mondiaux de la lessive, eux devaient payer une amende de 361 millions d'euros. En 2015, c'était le cartel des yaourts qui a été condamné à verser plus de 192 millions d'euros. L'amende record pour l'instant, c'est Apple hein, qui l'a obtenue en 2020. Elle s'est pris une amende de 1,1 milliard d'euros pour s'être entendue avec deux grossistes au détriment des détaillants plus petits sur les prix de vente au grand public de certains de ses produits. En appel, à l'époque, la sanction avait été révisée à 371 millions. Voilà. Et là, je vous le disais, donc le bureau, c'est 12,7 millions d'euros. Ça reste gentil, mais effectivement, on n'est peut-être pas sur les mêmes volumes. Allez, la transition est toute trouvée. On a parlé des prix du bio. Et justement, c'était un petit peu l'introduction que nous avait fait mardi dernier Yanouf pour nous parler d'économie bleue. Il est de retour au micro d'Escapade, toujours en stage cette semaine. Et donc, dans cette deuxième chronique, on va s'intéresser un peu plus en détail à ces technologies. Donc, participant de l'économie bleue, Yanouf, c'est à toi.
Bonjour Antoine. Bonjour à toutes et à tous. Mardi, je vous ai parlé de l'économie bleue, comme l'a dit Antoine. Aujourd'hui, nous allons détailler un sujet et comment l'économie bleue se présente sur un projet concret. Je vais juste vous rappeler ce qu'est l'économie bleue. C'est une sorte de super économie circulaire. Elle répond aux besoins de base de tout le monde. Elle utilise généralement les déchets comme matière première et surtout comme la matière première ne coûte généralement rien, et ben elle est beaucoup plus rentable que toutes les autres économies. Et en plus, elle génère plein d'emplois. Parlons des asticots. C'est un sujet pas très ragoûtant, mais qui mérite d'être abordé. Dans la nature, les asticots ont pour but d'assainir les bêtes mortes, les matières en décomposition et vertes. Au bout de quelques jours, ils deviennent de la nourriture pour les oiseaux et les poissons. Dans certains pays d'Afrique, il y a des gros manques de protéines pour donner aux animaux. En général, ils donnent pour les poissons de la farine de poisson. Mais pêcher des poissons pour redonner aux poissons, ça ne règle pas trop le problème. Pour les autres animaux, comme les poules, ils utilisent de la farine de céréales qui est peu protéinée et importée d'autres continents. Alors ça, c'est pas très local. Pour faire face à ce problème, nous allons récupérer tous les déchets d'abattoirs et les 35% d'invendus du système alimentaire, puis nous allons les broyer, ce qui va devenir la nourriture pour les vers de mouches. Ensuite, nous allons déposer la matière au sol, à l'abri de la lumière, et grâce à l'odeur de la matière en décomposition, les mouches vont venir pondre, et ce qui va faire un énorme attrape-mouche pour attraper les mouches, ce qui va faire que les maladies vont être beaucoup moins transmissibles parce qu'il y aura beaucoup moins de mouches. Mais ce n'est pas tout. Les asticots sont aussi des super chirurgiens depuis des milliers d'années. Les asticots sont utilisés pour nettoyer les plaies infectées et les ulcères qui peuvent aller jusqu'à l'amputation. Mais rassurez-vous, les asticots mangent que les peaux mortes ou infectées et doivent toujours rester en surface afin de continuer de respirer. Il y a aussi leur salive qui a des super propriétés cicatrisantes que l'on peut collecter pour sprayer sur les plaies afin qu'elles se guérissent plus rapidement. En résumé, l'asticothérapie nettoie et accélère la cicatrisation des plaies et très peu onéreuse et permet d'éviter des opérations chirurgicales qui coûtent vraiment très très cher. Les bénéfices de la production d'asticots sont l'élimination des déchets, des carcasses abandonnées portant des maladies par le bon le pont des mouches sur le substrat, ça fait comme un énorme attrape-mouche qui diminue les transmissions de maladies par ces dernières. Mais surtout, la production de protéines produites dans un temps record, qui permet de remplacer les farines de poisson et de céréales bien moins nutritives que les asticots.
Bah c'est super tout ça. Bon, on va passer à table, mais je pense que tout le monde a l'appétit, mais en tout cas, c'est passionnant. Est-ce que ça existe déjà, alors, ce genre de procédé, d'utiliser donc les asticots pour nourrir ensuite des animaux ?
Oui, aujourd'hui, il y a plein de fermes qui produisent des asticots, notamment les fermes Sangaï au Bénin. Si ça vous intéresse, les fermes Sangaï sont aussi un sujet super passionnant.
Très bien. Et je voulais peut-être te demander comment est-ce qu'on pourrait développer ça en France. Est-ce que ça existe ?
Alors en France, ça existe. Il y a des grosses entreprises qui ont levé beaucoup de fonds pour faire de la production de vers de mouche. Mais alors, c'est un petit peu plus compliqué parce que on a besoin de mettre ça dans des grands bâtiments qui sont chauffés parce que, bien sûr, vous savez, l'hiver, il n'y a pas de mouches. Et donc, on a besoin de grands bâtiments chauffés. Et en général, on utilise les mouches soldats noirs pour produire les asticots. Et aujourd'hui, bien sûr qu'il y en a, et ça peut être mis à des échelles beaucoup plus petites pour les éleveurs qui veulent nourrir un petit peu leurs animaux avec ça.
Eh bien, écoute, merci beaucoup, Yannou. Je rappelle donc que toi, tu t'intéresses beaucoup à cette fameuse économie bleue et que tu participes notamment à travers cette histoire de fables. Est-ce que les fables pour enfants, donc pour inspirer les enfants qui donnent un peu ces exemples-là de manière pédagogique, est-ce qu'il y en a une sur les asticots, justement ?
Oui, tout à fait. Tout à fait, il y en a une qui s'appelle Bave d'asticots et qui explique ce que je viens de vous expliquer, mais pour les enfants. Et c'est des fables qui sont pour tout âge. Et en général, c'est quand même entre 3 et 15 ans. Et après, si l'enfant, ça le passionne et ça l'intéresse, eh ben moi, je suis en train de développer sur le site internet des sujets où je vais donner beaucoup plus de matière, des vidéos, et aussi vous, si ça vous intéresse, vous pouvez y accéder et regarder ces vidéos et ces textes, c'est super intéressant.
Ok, tu peux nous rappeler le site internet ?
Le site internet, c'est guntersfable.org. Et après, si vous voulez aller sur l'économie bleue, c'est blueeconomy.org.
Voilà, Yannou est dans le secteur aussi. Si vous voulez le retrouver, appelez-nous, on vous donnera son contact. Merci.
Parfait.
À toi, en tout cas, d'être passé avec nous cette
Merci
semaine.
Merci à
enfin, encore demain aussi. Et puis, bah, écoutez, chers amis, c'est la fin de Nouvelles du Monde. On a encore un peu débordé, mais c'est pas grave, on a le temps, on est bien, on est chez nous. Allez, générique.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des Nouvelles du Monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les Nouvelles du Monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Oh, mais que se passe-t-il ?
Mais que se passe-t-il ?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?
Les Nouvelles du Monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.